français, vous, là?
Ben là, je parle peut-être pas le français de France, mais oui, je parle français.
Moi, je suis un Canadien québécois. Un Français, Canadien français.
Ah bon?
Un Américain du Nord français. Un francophone québécois canadien.
Ah, c'est certain.
Un Québécois d'expression canadienne française française. On est des Canadiens,
oui,
américains, francophones d'Amérique du Nord.
Oui,
des franco-québécois.
On est des franco-canadiens du Québec. Des Québécois canadiens.
Les deux.
C'est quoi?
L'a pas compris.
Les sceptiques seront confondus.
Bonjour et bienvenue dans le direct de Radio Bartas spécial 48 images secondes. Aujourd'hui, comme tous les jours de la semaine, on vous parle cinéma québécois, mais pas que. Alors, pour le cinéma, j'ai avec moi Guillaume.
Salut.
Yann.
Bonsoir.
Et Sylvain Garel qui nous fait le plaisir de revenir ce soir. Et pour le pas que, nous serons en ligne avec la dessinatrice Émilie Plateau, qui est peut-être déjà en direct d'ailleurs.
Je suis là, bonsoir.
Salut Émilie, et qui nous parlera donc de son exposition de l'autre côté à Montréal. Et normalement ce soir nous aurions aussi dû recevoir Pascal Malaterre, hein, la plus floracoise des artistes québécoises, qui a malheureusement perdu sa voix. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de la retrouver au micro dans les jours qui viennent. Et en attendant, je la salue très chaleureusement. Salut Pascal. Et donc, pour commencer, je vais vous faire un petit rappel des événements à venir dans les prochaines heures, presque, hein, on peut dire. Donc, toute la semaine, hein, on parlait de Pascal, mais vous pouvez retourner visiter son expo qui est à la mairie, donc dans la salle de la mairie. Expo entre photos et impression 3D, j'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter avec Pascal, qui est une artiste pluridisciplinaire et qui racontera son travail beaucoup mieux que moi je ne pourrais le faire. Donc j'attends un peu pour détailler ça. Et donc également toujours l'expo sur la faune et la flore du parc national du Saguenay, au parc national des Cévennes. Et puis demain à 17h, c'est la première projection du festival, je ne me trompe pas, avec Crazy, c'est ça Guillaume?
Oui, exactement.
Donc Crazy, le film de Jean-Marc
Vallée.
Jean-Marc Vallée, j'avais marqué JM et j'ai eu un gros blanc, c'est Jean-Marc, Jean-Marie?
C'est donc, Jean-Marc.
Jean-Marc Vallée.
Jean-Marie, c'est un autre.
Voilà. Et donc, enfin voilà, qui a marqué pas mal d'esprit, et on espère qu'il aura marqué aussi les collégiens qui ont eu l'occasion de travailler toute cette semaine sur ce film qui raconte un peu la construction de l'identité dans l'adolescence et voilà, au sein d'une famille traditionnelle et puis bousculée dans une fratrie assez énergique. Et est-ce que tu as des échos un peu de comment c'est passé, puisque ça fait un moment là que les collégiens travaillent sur le film?
Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est pas juste cette semaine, ça fait depuis le mois d'octobre qu'on travaille sur le film. Enfin, c'est un petit atelier de trois quarts d'heure, donc on a vu le film en plusieurs fois, et ensuite un petit travail d'analyse filmique, d'impression d'abord, et puis commencer à préciser un petit peu les modalités de l'animation qu'ils avaient prévu, qu'ils vont faire demain. Et donc, ça sera un quiz ciné. Déjà, ils vont monter sur scène pour présenter le film, présenter leur atelier. Vous allez voir le film qui dure à peu près 2 heures, donc il va terminer à 19h. Restez dans la salle et ensuite, il y aura un quiz avec 5 questions que les collégiens vont poser, tirées du film, bien évidemment. Si vous ne l'avez pas vu, ça va être quasiment possible de répondre. Et à l'issue de ce quiz, vous remettez un petit papier, vous aurez écrit votre nom et tout ça, les réponses. Et pendant une petite heure, la petite heure qui suit, les collégiens vont vérifier qui a bien répondu et qui a gagné différents lots qui sont des places pour le concert de Desjardins, passe festival et des places individuelles à gagner.
D'accord, donc ça vaut la peine d'y aller pour le concours, mais je le répète, hein, ça vaut vraiment la peine d'y aller pour le film que vous aussi, si vous ne l'avez pas encore vu.
Ouais, je ne sais pas si c'est la peine, voilà, c'est un film qui est sorti il y a une dizaine d'années, beaucoup de gens ont vu, beaucoup de gens n'ont pas vu, mais c'est un des films québécois dont on a entendu parler quand même en France, avec une bande-son exceptionnelle, exceptionnellement rock surtout, et qui bande-son plutôt années 60-70 quand même, puisque c'est l'époque où se passe le film, qui se passe sur trois époques différentes, plutôt l'enfance dans les années 60, l'adolescence dans les années 70 et un petit peu plus à l'âge adulte dans les années 80. Une très chouette comédie à découvrir, absolument.
Et je ne sais pas si tu as pu être en contact un peu avec eux. Est-ce que tu as eu déjà des réactions en fait, des collégiens par rapport à cette projection?
Des réactions, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. En tout cas, ils ont été assez assidus. Ils n'ont jamais loupé l'atelier, etc. Ils ont essayé de trouver des idées. Et dans l'analyse du film, je trouve qu'ils sont assez bien analysés les grandes thématiques qui sont abordées, parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Il y a l'adolescence, mais pas que. Enfin, la recherche d'identité, il y a tout un...
L'homosexualité ou l'homophobie, dans le cadre parental, c'est pas évident. Hein.
C'est ça. Et non, je trouve qu'ils ont assez bien analysé, ça leur a bien plu, alors que le personnage principal, en tout cas dans la grosse moitié du film, est plutôt à 3-4 ans de plus qu'eux, donc c'était pas forcément évident pour eux de se retrouver dedans directement. Mais non, ils étaient très contents, ils espèrent pouvoir continuer, et ils ont hâte d'être présents sur scène demain pour présenter ça.
Et Sylvain, tu les as rencontrés aujourd'hui?
Je les ai effectivement rencontrés aujourd'hui, et j'ai été aussi impressionné par les analyses qu'ils faisaient, qui étaient très justes. C'est un film qui plaît beaucoup aux adolescents. Il a été d'ailleurs, j'avais fait un opuscule sur ce film pour la région Poitou-Charentes, qui avait décidé de faire, dans le cadre de lycée au cinéma, en faire un de ses films d'études d'une année. Et c'est vrai que c'est... moi, j'ai été surpris de la façon dont ils ont bien analysé. Je trouve leurs questions intelligentes pour le quiz. Et voilà, donc je pense que leur travail est à la hauteur de ce film, qui est un des très bons films de ces 10 dernières années au Québec.
Bon, ben on verra ça demain. Moi, je suis impatient de découvrir leur quiz. Enfin, on sera peut-être en direct hein, au moment de ce quiz.
Non, il sera juste fini.
Ah, bon, on peut y aller vite fait. Et donc, le deuxième événement de la journée, demain, ça va être le vernissage de l'exposition d'Émilie Plateau. Émilie, t'es toujours avec nous ?
Oui, oui, je suis là.
Salut. Émilie, en fait, le vernissage a lieu demain, mais pas en ta présence, puisque c'est Julie de Six Pieds Sous Terre qui te représentera. C'est bien ça ?
Oui, tout à fait, oui.
Voilà. Mais on aura l'occasion de découvrir ton travail, donc... qui est tiré d'une bande dessinée, mais qui ne sont pas des planches de bande dessinée. Est-ce que tu peux peut-être nous parler un peu de la scénographie de cette exposition qui est assez spécifique?
Oui, alors en fait, j'ai fait un livre qui s'appelle « De l'autre côté à Montréal », qui a été publié aux éditions Six Pieds Sous Terre, et qui relate un petit peu mon expérience à Montréal, parce que je suis partie pendant 6 mois là-bas en résidence dans un atelier d'artiste. Et donc, il y aura quand même quelques planches de la bande dessinée qui seront exposées, mais il y aura aussi des petites boîtes en papier découpé qui reprennent des scènes de l'intérieur du livre, des scènes de la vie quotidienne, des bâtiments, des rues, etc. Enfin, vraiment, ce qui reprend l'architecture de Montréal.
Ton point de vue, donc, sur Montréal, en 3D, si
oui,
on veut.
Oui, voilà, oui.
Et donc, hein, on dit, hein, c'est un livre autobiographique, comme ton premier album, d'ailleurs, hein, c'était comme un plateau, qui était à Bruxelles. Donc, si on veut te suivre, tu es Montpelliéraine, qui a migré à Bruxelles pour partir à Montréal. Et si j'en crois le numéro de téléphone actuel, tu es à nouveau à Bruxelles. C'est bien ça ?
Oui, voilà, oui.
Et à chaque fois, tu te sers de ces escapades pour raconter une ville, en fait.
Oui, voilà, bah c'est je raconte mon expérience dans la ville que je découvre, mais c'est surtout aussi mon expérience à travers des rencontres. Parce que par exemple pour Comme un plateau, c'est mon arrivée à Bruxelles, mais je raconte pas trop ce qui se passe à Bruxelles, je raconte plutôt ce qui se passe dans ma colocation, parce que j'avais emménagé avec 6 personnes, et donc je raconte un peu la vie quotidienne. À travers la vie de 6 personnes, voilà. Et pour Montréal, c'est pareil, je raconte un petit peu ce que j'ai vécu en colocation, mais aussi la vie dans l'atelier, la vie à l'extérieur, la découverte de la ville en elle-même.
D'accord, et avec un style, enfin, On peut voir sur tes dessins, on découvrira un peu demain ta BD, mais un style très intime, hein, on sent qu'on est sur quelque chose d'assez fragile, d'assez sensible, enfin voilà. Donc moi je suis impatient de découvrir cette exposition. Et après je me demandais, enfin justement puisque tu t'es baladé dans les trois pays francophones de la bande dessinée, enfin on parle beaucoup de la bande dessinée belge ou française, est-ce que la bande dessinée québécoise existe et est-ce que ça a pu t'influencer en fait d'être là-bas?
Bah en fait, dans l'atelier dans lequel j'étais, il y avait deux maisons d'édition indépendantes. Il y en a une qui s'appelle Popo et l'autre qui s'appelle La Mauvaise Tête. Et donc, il y avait aussi beaucoup d'auteurs de bandes dessinées dans cet atelier. Et évidemment, oui, c'était très enrichissant de les rencontrer et de voir un petit peu quels sont les styles de dessin des Montréalais ou leurs thèmes de prédilection. Oui, c'était très bien à ce niveau-là.
Est-ce qu'on a des influences communes avec eux ou est-ce que justement ils ont des influences spécifiques qu'ils ont pu t'apporter éventuellement?
Bah, peut-être qu'ils ont un petit peu plus une influence américaine. Enfin oui, c'est un petit peu comme le Québec, quoi. C'est à la fois l'Europe et l'Amérique mélangées et je trouve que ça se ressent aussi dans leur bande dessinée. Et oui, bien sûr, j'ai été nourrie par ces rencontres et par ces auteurs que je connaissais pas. Enfin, je connaissais pas vraiment leur travail avant d'y aller. Et j'ai aussi été beaucoup nourrie par l'architecture de la ville, par les bâtiments qui sont très différents de la Belgique ou de la France. Et je les ai beaucoup traités dans ma bande dessinée sur Montréal.
Et aussi dans l'expo qu'on verra donc à partir de demain, où j'ai l'impression justement que ces visions de rue sont pas mal présentes et de quartier.
Oui, bah j'aimais vraiment beaucoup la différence, justement comme je disais, avec la Belgique et la France par rapport aux bâtiments. Et puis il y a beaucoup de pylônes électriques, de câbles qui tombent partout, le linge l'été qui sèche. Parce qu'en fait, à Montréal, il y a le devant des maisons et puis il y a des ruelles derrière qui sont très calmes avec beaucoup de jardins, de plein de choses qu'on voit pas du côté de la rue ordinaire.
Tiens, j'en profite pour te recommander, si tu ne l'as pas encore vu, Tudor Nicole, qui se passe beaucoup dans le jardin de son personnage principal et beaucoup des histoires de quartier, c'est très graphique.
D'accord.
Qu'on présentera en avant-première ici, donc qui devrait arriver, j'imagine, à Bruxelles dans les semaines qui viennent, on l'espère pour eux.
Okay.
Et donc, je fais de la pub pour eux. Et en fait, donc, comme je le disais, tu ne seras pas là pour le vernissage. Par contre, tu arrives pour le Festival du Livre, je pense, pour faire des ateliers.
Oui, voilà. Alors j'arrive, je crois que c'est le week-end du 2 et 3 avril.
Mm-hmm. Ou 3, 4, 3, 4.
Je donnerai un atelier de fanzine avec Anne-Charlotte Gauthier.
D'accord, bah, génial. Bonne
oui.
nouvelle. Émilie, merci beaucoup pour avoir été disponible pour nous. Et une petite précision de Guillaume.
Je voudrais rajouter que l'exposition elle est visible à Nouvelle Dimension cette semaine pendant le festival, mais aussi pendant un mois, pendant les horaires d'ouverture de la Nouvelle Dimension, jusqu'au 4 avril justement. Et normalement, le décrochage se fait le dimanche 5 avril autour d'un petit brunch en ta présence, Émilie.
Oui, tout
voilà,
à fait.
Bref.
Oui.
Donc, rendez-vous le 5 avril pour découvrir en ta présence l'exposition.
Tiens, et je pense
avec plaisir.
Et il y aura des bouquins aussi à partir de demain. Six Pieds Sous Terre m'a confirmé que les bouquins seront en vente
c'est parfait.
Dès demain. Mais, bonne soirée à Bruxelles et à bientôt à Florac.
Merci beaucoup, bonne soirée.
Au revoir.
Au revoir.
Voilà, là-dessus, moi, je vais peut-être vous proposer une petite pause musicale. On parlait un peu de l'atmosphère rock de Crazy. Et un petit Bowie, c'est toujours à propos, non?
Oui, surtout que c'est dans la bande originale du film.
Et puis, il y a l'exposition à Paris, David Bowie.
Oui, il y avait le vernissage hier soir.
À la Philharmonie de Paris.
Tout à fait.
Mais on n'a pas pu y aller grâce au festival.
Mais ça dure jusqu'au mois de mai, je crois.
Hein, on se rattrapera. Merci, Sylvain.
Ground.
ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
7, 6.
Commencing countdown, engines on.
3, 2.
Check ignition 1. And may God's love
lift
be
off
with you.
Bon, ça fait toujours un peu mal hein, de couper David Bowie, mais en même temps, on a très envie de rediscuter avec Sylvain.
C'est gentil.
Bah, il a fait le plaisir de venir, donc c'est pas pour parler 3 minutes. Sylvain, hier, c'était donc le stage, on en a parlé sur le... Non, c'était aujourd'hui sur le Front Libération.
Voilà.
Et
ça y est, le Québec est libéré ce soir.
Le Québec est libéré, ah bah, ça va faire la une, hein, je pense.
C'est un scoop.
Là, c'est grand. Et la rencontre avec les collégiens. Et demain, ça sera la journée sur Denis Arcan.
Voilà, Denis Arcan, qui est effectivement le cinéaste le plus connu dans le monde actuellement, le cinéaste québécois, qui a une très longue carrière, puisqu'il a fait un court-métrage dès la fin des années 50, mais qui est malheureusement disparu. Mais son premier long-métrage date de 1962. Et il avait d'ailleurs commencé en fanfare, parce que ce long-métrage a été sélectionné au Festival de Cannes, dans la première semaine de la critique du Festival de Cannes. Et c'est un film qui s'appelle « Seul ou avec d'autres », qui est d'ailleurs pas un chef-d'œuvre, mais qui est un film qui a lancé sa carrière et qui continue toujours aujourd'hui cette carrière plus de 50 ans après.
Et donc voilà quelqu'un remarqué dès le départ.
Oui. Et oublié ensuite parce qu'il a pendant une dizaine d'années, il a essentiellement fait des documentaires historiques à l'Office national du film du Canada. Il faut savoir que Denis Arcan, sa spécialité au départ, c'est un historien. Et c'était aussi ma formation, c'est peut-être pour ça aussi que ce cinéaste m'intéresse tant. C'est qu'il a fait beaucoup de films historiques sur l'histoire du Québec, sur Champlain, sur Duplessis, sur beaucoup d'événements, sur comment le Québec a été découvert. Vert, etc. Et c'est des films qu'il a tournés à l'Office national du film dans les années 60, et des films qui presque tous ont été censurés par l'Office national du film en partie, parce qu'à chaque fois, il trouvait des choses qui ne plaisaient pas. Par exemple, il a découvert que Champlain était pédophile, donc ça n'a pas... Il a raconté ça dans son film, qu'il s'est marié avec une indienne de 12 ans, donc ça a été... on lui a changé son film. Et puis après, il a fait une autre de ses passions, c'est le sport. Il a fait un film qui s'appelait Volleyball, mais il a filmé un match de l'équipe soviétique contre l'équipe des États-Unis, alors que c'était une commande pour inciter les gens à jouer au volleyball. Alors on lui a dit, ça va pas, parce que les gens qui jouent là, c'est les meilleurs joueurs du monde, donc ça va pas inciter les gens. Donc on lui a ajouté un petit prologue pour voir des gens qui jouent au volleyball sur la plage. Enfin voilà, il y a eu plein de successions comme ça. Et puis après, il s'est lancé dans la fiction.
Où là, du coup, il était peut-être plus son propre maître et, il pouvait développer des histoires qui lui correspondaient plus.
Tout à fait. Alors, la fiction, il a commencé réellement au début des années 70, où il a enchaîné trois films. Il a enchaîné un film qui s'appelle La maudite galette, un autre qui s'appelle Réjane Padovani, et un troisième qui s'appelle Gina, qui ont tous en point commun d'être des critiques très virulentes de la société de consommation, de l'argent, de l'appât du gain. Il faut dire qu'à cette époque-là, Denis Arcand, et comme beaucoup de cinéastes et de jeunes hommes et femmes vivant au Québec, influencés par les théories marxisantes qui sont extrêmement développées à cette époque-là un peu partout en Occident. Et Denis Arcand fait des films à la fois très, très violents, très, très critiques, très cyniques, diront certains aussi. Et c'est des films qui ont eu un certain succès, mais malheureusement, le troisième, Gina, qui est sans doute le meilleur des trois, a été un échec, a coûté plus cher que les autres, et il est reparti faire des documentaires à l'ONF.
D'accord. Et après, nous, en France, on l'a plutôt découvert avec le déclin de l'Empire américain, qui a été un succès majeur et qu'on aura l'occasion donc, de revoir jeudi soir à 19h à La Jeunette. Ce sera une soirée hein, Denis Arcand, puisqu'il y aura le déclin et suivi des invasions barbares, qui est sa suite.
Et, 17 ans plus tard.
Voilà. Et qu'est-ce qui fait en fait que... pourquoi tout d'un coup la France découvre Denis Arcand ?
Alors, entre-temps, quand même, c'est important. Il fait un film en 1980 qui a été très important, qui s'appelle Le confort et l'indifférence, qui est son dernier documentaire, et qui est un documentaire sur l'échec du référendum de 1980.
D'accord.
Qui est le film sur l'échec du référendum, qui est vraiment très brillant, puisqu'il mélange des images documentaires de toute la campagne et de l'après-campagne référendaire avec des réflexions de Machiavel. Et il montre comment Machiavel s'applique totalement à l'échec de ce référendum. Et puis donc...
c'est un film documentaire.
Oui, c'est un film documentaire, mais avec entrecoupé par un acteur qui lit des passages de Machiavel, qui les récite, un acteur très connu au Québec, Ronfard, et qui donc dit des... c'est très étonnant parce que à 500 ans d'écart, on s'aperçoit que les sentences de Machiavel s'appliquent totalement à la situation du Québec et du Canada à cette époque-là.
Juste peut-être rappeler le référendum...
Oui, le référendum. Alors, le référendum de 1980, c'est un référendum qui a bien sûr beaucoup marqué le Québec. Il y a eu deux référendums, un en 80 et un en 95, où les Québécois ont été appelés à voter oui ou non à leur indépendance. Ouais. Les deux ont été un échec, mais pas de même tout à fait d'amplitude, puisque celui de 80 a été perdu 40% pour le oui, 60% pour le non, et le celui de 95 a été perdu de 49,4% pour le oui contre 50,6% pour le non.
Ça n'a pas le même sens.
Hein. Avec 92% de participation, ouais. Ce qui est sans doute un record dans un pays où le vote n'est pas obligatoire. Alors, donc, après ce référendum qui a été bien sûr que Denis Arcand, comme la plupart des cinéastes qui avaient des sympathies évidentes pour l'indépendance, ça a été pour lui en tout cas une certaine rupture avec l'engagement politique, et il s'est lancé dans l'écriture d'un film de fiction. Denis Arcand met toujours beaucoup de temps à écrire ses scénarios, c'est d'ailleurs sans doute ce qui fait leur force et leur intérêt, et en 1986 il présente le déclin de l'Empire américain, qui est présenté en ouverture de la quinzaine des réalisateurs à Cannes, et le film immédiatement connaît un succès considérable. C'est-à-dire, je me rappelle, j'étais à Cannes cette année-là et tout le monde ne parlait que de ce film parce que ce film aborde un sujet qui intéresse beaucoup de gens, la sexualité. Et ce film est aussi une réflexion sur comment le Québec et les élites québécoises ont évolué, puisque les personnages principaux sont quatre hommes et quatre femmes qui sont des enseignants d'université, des professeurs d'histoire. Toujours, on revient à l'histoire. Hein, l'histoire est vraiment le fil rouge de la carrière de Denis Arcand. Et c'est une où on voit aussi que les rôles entre les hommes et les femmes sont inversés. C'est un film que j'ai peut-être vu 20 fois, et je dois dire qu'à chaque fois que je le vois, je découvre de nouvelles choses. C'est vraiment un film, je le dis pour des gens qui l'ont déjà vu, c'est vraiment un film qui mérite d'être vu, revu, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de niveaux de lecture dans ce film.
Oui, il réinterroge sans cesse le modèle amoureux.
Le modèle amoureux, les rapports entre les hommes et les femmes, le rapport avec le pouvoir, le rapport entre la décadence de l'Empire américain, qui est le thème qui donne son titre au film, et puis aussi plein de réflexions qui sont, je crois, universelles. C'est-à-dire que c'est un film à la fois très québécois et très universel, enfin au moins universel pour l'Occident. Je ne suis pas sûr qu'en Afrique ou en Asie du Sud-Est, la lecture serait tout à fait la même. Mais c'est un film qui a marché, qui a été le premier véritable succès mondial du cinéma québécois. D'ailleurs, par exemple, Le déclin de l'Empire américain a été diffusé au Brésil, qui était un pays où jamais un film québécois n'avait été présenté. Il était diffusé en Inde, où jamais un film québécois n'a été présenté. Et il a fait 1 200 000 entrées en France, ce qui a longtemps été constitué le record des entrées. Il n'a été battu que par Les Invasions barbares, qui a fait 1 300 000 entrées.
Donc la suite
La suite. Alors entre-temps, il a fait plusieurs autres films moins percutants, parce qu'il a du mal à... Je vous dis, c'est très long à écrire. Alors il a adapté une pièce de théâtre anglophone, il a fait un film assez sympathique sur les itinérants, sur les SDF pour la télé, qui s'appelait Joyeux Calvaire. Il a fait un film très raté qui s'appelle Stardom. Et puis, en fin de compte, il voulait faire un film sur la mort et le suicide. Hein. C'est un sujet qu'il travaille depuis très très longtemps. Et il a trouvé, en fin de compte, l'idée, c'est de reprendre ces personnages du déclin de l'Empire américain, les mêmes acteurs. Enfin, tout au moins 6 des 8, hein, les 8 ne reviennent pas, les deux plus jeunes ont disparu dans l'entretemps, et 6 des 8 reviennent, mais par contre d'autres acteurs et d'autres personnages surtout reviennent, des gens plus jeunes, et c'est aussi là, le conflit des générations entre les baby boomers, hein, ceux qui ont un peu tout eu après la guerre, et puis tous ceux qui se sont construits d'une façon différente. Et là, c'est le conflit d'entre ces deux générations qui est montré dans Les Invasions barbares.
Notamment par un dialogue père-fils.
Oui, par un dialogue père-fils tout à fait émouvant, tout à fait fort, enfin, au début très violent, et puis qui, la mort approchant, devient bien sûr beaucoup plus tendre. Et puis un rapport mère-fille aussi avec la jeune héroïnomane jouée par Marie-Josée Croce, qui aura le prix d'interprétation féminine à Cannes cette année-là. La surprise générale, d'ailleurs, parce que on ne pensait pas qu'elle pourrait obtenir un prix aussi important. Et Les Invasions barbares a obtenu aussi le grand prix du Festival de Cannes, et ça a lancé sa carrière et relancé la carrière de Denis Arcand.
Mais enfin voilà, on ne le dira pas assez, mais on vous recommande chaudement, mais comme tout le reste de la programmation, en fait, tous les films, on vous les recommande chaudement.
Oui, bien sûr. Non, bien sûr, mais c'est vrai que si vous n'avez pas vu ces deux films-là, ou si vous n'avez vu qu'un seul, c'est important de les voir l'un après l'autre, parce que c'est vraiment intéressant de voir comment aussi le Québec a changé en 17 ans.
Ouais.
Par exemple, l'ouverture du déclin de l'Empire américain, c'est dans une université, et Les Invasions barbares, c'est dans un hôpital. Hein, vous voyez, c'est très symptomatique, parce qu'en plus c'est le même mouvement de caméra, voilà, qui est fait dans un lieu totalement différent. Et je pense que c'est vraiment un film qui mérite, je vous dis, les deux d'ailleurs, d'être vu et revu. On s'en lasse pas.
C'est marrant, moi j'avais pas capté en fait que c'était l'ouverture dans un hall d'université. Enfin, je connais pas l'université de Montréal.
Alors c'est pas la vraie université, mais c'est censé être un hall de l'UQAM, de l'Université du Québec à Montréal. Et l'autre, bah, c'est un hôpital où les malades sont dans le couloir, parce qu'il n'y a plus de place pour les hospitaliser dans des chambres.
C'était juste pour moi. Pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur Denis Arcand, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Il y aura la matinée de demain, c'est bien ça?
La journée de demain. J'ai amené avec moi l'ensemble des films de Denis Arcand. On ne pourra pas tous les voir en entier, mais si des gens veulent mieux connaître Denis Arcand, à partir de 9h...
Et donc c'est ça, ça commence à 9h à la 4e dimension.
À la nouvelle dimension.
À la nouvelle dimension, tiens, j'ai encore des vieux réflexes. C'est prix libre.
Ouais.
Et donc, enfin voilà, comme tous les autres journées de stage, sachant que donc il y a cette journée demain, jeudi, c'est pas relâche, mais
jeudi matin, c'est visionnement.
Voilà, visionnement pour ceux qui voudraient profiter des films qui ont été mis à disposition. Et donc vendredi, on retrouvera Daniel Racine pour le cinéma québécois au 21e siècle.
C'est exactement ça.
Cool, je ne me suis pas loupé. Et puis, il est 19h, donc je vais essayer de terminer vite fait. Pardon, je n'avais pas regardé là.
Pardon d'avoir été aussi long.
Non, mais c'est très intéressant. Donc, l'autre grand moment de demain, ça va être... mercredi, ce sera la soirée d'ouverture, mais on en reparlera...
Si, tu peux en parler demain.
On en parlera demain, juste avant.
C'est d'ouverture à 19h30 à la Jeunette Verte, c'est gratuit, c'est bien, c'est et le film Mommy à 21h.
Eh bien voilà, du coup, on va pouvoir rendre l'antenne, la laisser à Marie-Hélène, qui fait le direct dans les Bartas dans quelques instants, où elle sera avec la revue CQ. FD, ce qu'il faut deviner. Je pense qu'il y a beaucoup de choses derrière ce dé. Merci à tous et on se retrouve demain pour le direct québécois dans les Bartas.
Cette grosse vache!
Ben voyons, mademoiselle, on peut-tu rester près?
On a-tu gardé cochon ensemble, toi puis moi?
Ben